Bonjour à tous. Ce matin, après la prédication, on va avoir un moment un peu particulier. Je pense que vous vous souvenez quand même, le 27 septembre dernier, en tout cas pour ceux qui étaient là, pour notre journée de rentrée d'église, on avait eu la joie de recevoir Benjamin Turio, qui était venu nous accompagner tout au long de cette journée. Il est membre de la commission évangélisation de notre union d'église et pasteur à l'église évangélique libre de Marseille. Et il nous avait conduit dans une réflexion sur l'avenir de notre communauté, sur ce qu'elle est également actuellement, et sur la manière dont nous voulons ensemble accomplir la mission que le Seigneur a confiée à son église, c'est-à-dire apporter au monde sa bonne nouvelle. Pour nous aider dans ce cheminement, il nous a proposé, présenté un parcours, le parcours Vitalité, c'est son nom. C'est un outil que notre union d'église propose à toutes ses églises pour les aider avant tout à faire le point sur ce qu'elles sont et à élaborer ensuite des projets communautaires afin d'œuvrer tous ensemble pour le Seigneur. Alors la première étape de ce parcours, c'est la constitution d'une équipe de 7-8 personnes, une équipe à qui l'Église confie certaines missions. Certaines missions, j'en parlerai un peu plus après la prédication, ces missions qui doivent préparer en douceur, en prenant le temps, le bilan que nous ferons plus tard tous ensemble en communauté. Eh bien cette équipe, j'ai le plaisir de vous apprendre qu'elle est constituée et elle vous sera présentée après cette prédication, et nous aurons un moment de prière pour remettre leur travail entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église va confier une responsabilité à un groupe de personnes. Et durant cette prédication, nous allons justement parler de responsabilité et de service. Et je vous invite à suivre ensemble la lecture de deux passages dans la première épître à Timothée. Alors, le premier se trouve au chapitre 1 de cette première épître à Timothée, les versets 12 à 14. C'est l'apôtre Paul qui nous parle dans cette lettre. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service, moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a eu pitié de moi, car j'agissais par ignorance puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Puis un peu plus loin, un autre passage de cette même première épître à Timothée, au chapitre 3, les versets 1 à 13. On dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable. Qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique. Que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Il en va de même des diacres. Ils doivent inspirer le respect, qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson ni pour le gain malhonnête. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Il faut qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Il en va de même pour les femmes, diacres. Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles soient maîtresses d'elles-mêmes et dignes de confiance dans tous les domaines. Que les diacres soient des maris fidèles, qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leur famille, car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. J'arrêterai là cette lecture. Alors, dans le premier passage que nous avons lu, l'apôtre Paul commence sa lettre par nous parler de lui-même. Alors, l'apôtre Paul est assez célèbre, quand même, comme personnage biblique. C'est l'un des plus grands personnages de tout le récit biblique. C'est un très grand serviteur du Christ et de son Église. Il a parcouru tout l'Empire romain, à pied ou en bateau, pour annoncer le salut en Jésus-Christ. Il a implanté des églises, il a formé des enseignants et des responsables. C'est un apôtre de premier plan et il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Donc, lorsqu'il parle d'être un des responsables ou un des serviteurs de l'Église, il pourrait commencer par se poser en exemple. Il pourrait commencer par nous remettre tous à notre place en se plaçant au-dessus. Et honnêtement, on n'aurait rien à lui redire. Eh bien, non, c'est pas ce qu'il fait. Je vous relis le début de cette lettre. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service, moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a eu pitié de moi, car j'agissais par ignorance puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Avant de parler de responsabilité ou d'autorité ou de service, Paul commence par remettre tous les croyants à leur place, lui compris. Quelle que soit notre connaissance biblique, quelle que soit notre place dans l'Église, quelle que soit l'ancienneté de notre conversion, nous sommes tous tirés du même moule. Tous dans notre vie, nous avons commencé par offenser le Seigneur. Nous avons commencé par ne pas croire en lui et en son sacrifice pour nous. Nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous avons tous commencé par ne pas l'être. Mais c'est le Seigneur qui a eu pitié de nous. Comme le dit si bien Paul, dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en nous la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui est venu nous chercher, chacun d'entre nous, là où nous étions. C'est lui qui nous a amenés à croire en lui. Il a fait naître en nous la foi, il nous a pardonné. Il nous a donné son esprit pour nous marquer comme des membres de son peuple, des membres de sa famille, des membres de son Église. Avant de parler de responsabilité ou d'autorité dans l'Église, Paul nous rappelle qu'aucun d'entre nous n'est meilleur que l'autre. Aucun n'est supérieur. Parce que si nous sommes effectivement tous différents les uns par rapport aux autres, nous sommes également tous tirés du même moule. Aucun d'entre nous n'a de raison de se glorifier. Le seul qui mérite la gloire, c'est le Seigneur qui, lui, nous a tout donné. Vous le savez comme moi, je pense, on le voit un peu tous les jours, dans notre monde, on a tendance à croire que ce sont les meilleurs qui dirigent, que ceux qui ont l'autorité sont supérieurs d'une certaine manière. Mais l'autorité dans l'Église ne vient pas de ce qu'on est meilleur. Elle ne vient pas d'une différence ou d'une supériorité parce qu'aucun d'entre nous ne vaut plus que l'autre. L'autorité, la responsabilité dans l'Église, elles viennent avec le service, avec l'humilité. À l'image du Christ qui est le chef de l'Église et qui pourtant s'en est fait serviteur jusque sur la croix. C'est essentiel de comprendre ça avant de parler de responsabilité, et c'est par ça que Paul débute cette lettre, cette première épître à Timothée, dans laquelle il parle beaucoup de responsabilité et de service dans l'Église. Puis, dans le deuxième passage que nous avons lu, Paul vient donner ce qui ressemble à une liste de critères que doivent rassembler ceux à qui on confie une responsabilité ou un service dans l'Église. Et avant de regarder rapidement ces critères, rien que le fait que Paul nous donne une liste de critères peut nous enseigner une chose importante. On ne confie pas à n'importe qui une responsabilité ou un service dans l'Église. S'il y a des critères, c'est qu'il faut du discernement. Il faut connaître les membres d'une Église et pouvoir discerner chez eux s'ils sont pertinents dans un service. Et ce discernement, c'est celui de l'Église elle-même, de l'Assemblée, de la communauté. Dans l'Église, on ne doit pas s'autoproclamer responsable ou enseignant ou diacre. Ça veut dire serviteur, en fait. Le sens du mot diacre, ça veut juste dire serviteur. Et l'Assemblée ne doit pas laisser des personnes s'autoproclamer responsables. Même si parfois certains, je l'ai vu, pas ici mais dans d'autres églises, certains peuvent venir en affirmant avoir reçu un appel ou une révélation de la part de Dieu. Mais par son discernement, c'est l'Église qui confie un service à une personne ou à un groupe. Je vais prendre un exemple que je connais bien, le pasteur, c'est-à-dire moi-même. J'ai personnellement la conviction, la certitude d'avoir reçu un appel de la part du Seigneur. J'ai la certitude d'avoir reçu une vocation de la part de Dieu, celle d'enseigner, d'être pasteur. Mais qui est-ce qui m'a donné la responsabilité pastorale ? Qui est-ce qui a cherché à discerner si, effectivement, j'étais pertinent dans un rôle d'enseignant avant de me confier ce service ? Eh bien, c'est premièrement les responsables de notre union d'église, puis au final, c'est vous. C'est vous, c'est l'église qui m'avait confié un service, une responsabilité, celle d'être pasteur de cette communauté. C'est vous qui avez discerné, et puis voté, décidé, ensemble. Et c'est encore vous qui pourriez, avec le temps, en venir à discerner que c'était une erreur et me retirer cette responsabilité. J'espère pas, hein. J'espère que je vais être digne de ce service, mais tout ça pour vous faire comprendre que c'est l'Église, guidée par le Seigneur et le Saint-Esprit, qui doit discerner et ensuite confier un service à un ou des serviteurs. Maintenant qu'on a vu ça, si on regarde les critères que Paul nous donne, eh bien on a l'impression qu'il fixe la barre très haut. Il faut être, je cite, irréprochable, avoir une bonne connaissance de Dieu et de sa parole pour pouvoir enseigner, avoir une foi ferme, qui ne soit pas nouvelle, avoir une bonne réputation même en dehors de l'Église, ne pas avoir de problème vis-à-vis de l'argent ou de l'alcool, être digne de confiance, réfléchi, maître de soi. On a vraiment l'impression qu'il faut choisir les meilleurs d'entre nous. Et pourtant, Paul nous a montré au début de la lettre que personne ne vaut plus que l'autre dans l'Église. Personne n'est meilleur que l'autre. Alors pourquoi est-ce que maintenant il faudrait faire une sélection ? Eh bien, tout simplement parce que si effectivement nous sommes tous égaux et de même valeur dans l'Église, nous n'en sommes pas pour autant tous au même stade de notre vie chrétienne. En effet, certains en seront au début de leur marche avec le Christ. Ils en seront à découvrir l'Évangile, à apprendre à vivre en chrétien avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Ils en seront aussi au début de ce travail sur eux-mêmes que le Seigneur nous demande lorsqu'il nous encourage à progresser dans ce que Paul appelle les fruits de l'Esprit, ce que Jacques appelle les œuvres bonnes, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces personnes qui en sont au début de leur cheminement avec le Seigneur ont besoin d'être encouragées, ont besoin d'être entourées, d'être aidées dans ce nouveau chemin de vie qu'ils découvrent. Certains débutent sur ce chemin, mais d'autres en seront à un stade où ils peuvent justement aider, entourer, encourager, enseigner. Parce qu'ils ont avancé suffisamment sur ce chemin de vie avec l'aide du Seigneur et de leurs frères et sœurs en Christ pour à leur tour maintenant pouvoir servir ceux qui en ont besoin. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas arrivés au bout de leur route, de leur cheminement, ils continuent leur propre chemin, mais ils peuvent avancer tout en aidant ceux de leurs frères et sœurs en Christ qui en ont besoin. Et au final, si vous regardez bien tous les critères que Paul nous donne, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est des choses vers lesquelles la Bible encourage chacun d'entre nous. Une foi ferme, une bonne connaissance de Dieu et de sa parole, être digne de confiance, être réfléchi, maître de soi-même. Tout ça, nous sommes tous appelés à le rechercher. Mais dans ce chemin de vie, certains sont plus avancés, d'autres découvrent tout juste, certains peuvent servir, d'autres ont besoin qu'on les serve. Recevoir la responsabilité d'un service dans l'Église, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. Ça veut simplement dire que certains de nos frères et sœurs en Christ nous ont nous-mêmes suffisamment accompagnés dans notre vie chrétienne pour qu'à notre tour, nous soyons maintenant capables d'accompagner les autres. Je ne vais pas m'étendre tellement sur ces critères, je ne vais pas les prendre un par un, mais j'aimerais juste tout de même en souligner un, en particulier, sur lequel Paul insiste lourdement. Lourdement. Il revient dessus à 3 ou 4 reprises dans ce texte. Un texte qui fait que 13 versets. En 13 versets, il y revient à 3 ou 4 reprises. Alors, quel est ce critère ? Pour se voir confier un service dans l'Église, nous dit Paul, il faut être un mari ou une femme fidèle dans son couple et qui assume bien ses responsabilités à l'égard de ses enfants et de sa famille. Alors ça n'exclut pas les célibataires, bien au contraire, rassurez-vous. Ici, Paul s'attarde sur la question de la famille en général. Alors pourquoi Paul insiste aussi lourdement sur ce critère ? Eh bien, lorsque l'Église me confie la responsabilité d'être pasteur, et pas que pour moi, pour tous les autres services que l'Église confie à d'autres personnes, il y a un piège qu'il me faut éviter. Je cours le risque de me plonger dans ce service pour l'Église avec une telle intensité que j'en vienne à délaisser ma famille, ma femme, mes enfants, mes parents, etc. Je peux en venir à passer tellement de temps à remplir mon service envers l'Église, que j'en vienne finalement à ne plus avoir de temps pour remplir mes devoirs envers ma famille. Et Paul nous met en garde contre cette dérive, contre ces abus. Il le dit clairement. Comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu ? Lorsque l'Église nous confie un service, on ne devient pas indispensable à l'Église. Parce qu'on ne sert pas l'Église tout seul. D'autres servent. Il y a d'autres serviteurs. D'autres peuvent et doivent nous épauler. On ne travaille pas seul. D'autres peuvent même parfois nous remplacer, si besoin est. Notre service à chacun est important. Mais nous ne sommes pas indispensables. En revanche, la place que nous avons dans notre famille, celle de mari, d'épouse ou de parent, les devoirs que nous y avons, personne ne peut les remplir à notre place. C'est pour ça que Paul insiste tellement, aussi lourdement, sur l'importance de notre rôle dans la famille, même en étant serviteur de l'Église du Christ. Trop de personnes se sont épuisées à servir parfois seules dans l'Église. Trop de personnes, de pasteurs, de conseillers ou de simples serviteurs, ont délaissé leur famille sous prétexte de servir l'Église du Christ. Trop de personnes n'ont pas réussi à éviter ce danger et trop d'églises les ont laissées faire sans les arrêter à temps. C'est l'Église qui confie la responsabilité d'un service, mais elle ne s'en décharge pas. C'est l'Église qui est responsable des services qui sont donnés en son sein. Et c'est également l'Église qui doit veiller sur ceux qui la servent. Enfin, j'aimerais terminer en vous rappelant ce que j'ai déjà dit dans d'autres prédications. Quel est le rôle de ceux à qui l'Église confie un service particulier ? Et pour cela, je vous lis ce passage d'Éphésiens 4, verset 12, sur lequel j'ai prêché, pas que sur ce verset-là, mais il n'y a pas très très longtemps. Il, Dieu, a fait don de ses hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ceux qui servent dans l'Église sont là pour aider l'ensemble des croyants à se former, à grandir dans la foi, à grandir dans la connaissance de Dieu et la pratique de la vie chrétienne, pour que chacun d'entre nous puisse accomplir son propre service en vue de la croissance du peuple de Dieu. Nous avons tous un service à rendre pour Dieu, parce qu'il y a une mission que le Christ a confiée à tous les croyants, celle d'être des témoins, d'apporter son message de salut à tous les hommes. Certains travaillent à l'intérieur du corps qu'est l'Église, mais leur but est que tous puissent accomplir leur service pour Dieu dans leur vie et dans le monde. L'Église discerne ceux qui vont servir dans l'Église et leur confie un service, mais Dieu a choisi chacun d'entre nous pour faire partie de son peuple, et à tous il nous confie un service, une mission, en vue de la croissance de ce peuple, la croissance de l'Église. Amen.